8h10, bienvenue sur RCF et Radio Notre-Dame. Dans 20 minutes, le journal de Radio Vatican. On prendra bien sûr des nouvelles du pape François qui remonte la pente. Il est toujours hospitalisé pour une pneumonie à l'hôpital Gemelli, mais il va mieux. Avant cela, on va partir en mer avec notre invité de la matinale, Tanguy Le Turquet. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez de boucler le Vendée Globe en 84 jours, 23 heures et 35 minutes. Vous avez gravi l'Everest des mers sous les couleurs de Lazare, des colocations solidaires de personnes en précarité avec de jeunes actifs. Le Vendée Globe, une aventure folle contre vents et marées autour du monde. À la rédac ici, on vous a suivi avec passion à travers les vidéos que vous avez postées chaque jour. Un témoignage du défi sportif, humain et peut-être même spirituel que vous avez vécu, traversé par les joueurs. Les doutes, les galères, les miracles, les espérances en communion avec la création. Votre Vendée Globe, c'est tout ça. Un peu comme ce qui se vit à Lazare, un témoignage d'une belle folie, Tanguy Le Turquet.
Ouais, c'est un très beau résumé, c'est exactement ça, j'aurais pas dit mieux. On a réussi à boucler ce tour du monde. Alors je dis « on » parce que les colocs Lazare étaient avec moi. Alors le logo de l'association était sur ma coque, dans mes voiles.
On vous a vu là, sur la toile rose à travers les océans.
Ah ouais, j'avais à cœur vraiment de les emmener avec moi et ils étaient avec moi. La course au large en solitaire, c'est particulier. C'est un sport où on est seul avec nous-mêmes. On ne voit pas nos concurrents et on a un peu l'impression que le premier concurrent, c'est nous-mêmes. Et donc, avoir les colocs Lazare avec moi, en tout cas dans ma tête, pendant ce tour du monde, ça m'a beaucoup transporté, ça m'a beaucoup aidé.
Alors, c'est un défi sportif, un défi humain aussi. Les colocs Lazare, c'est un Everest chaque jour, en fait.
Ouais, exactement. C'est marrant, depuis que je suis arrivé du Vendée Globe, les gens me reconnaissent un petit peu par moments dans la rue et sont admiratifs, nous portent un peu comme des héros, mais finalement, à mon sens, les vrais héros, c'est ces colocs Lazare qui font ça un peu dans l'anonymat et qui vivent chaque jour des aventures, qui chaque jour doivent déplacer des montagnes pour essayer de s'en sortir. La première mission, déjà, c'était de casser un peu son quotidien pour aller s'investir et aller rentrer chez Lazare, que ce soit les jeunes actifs ou les gens en galère. Et pour moi, c'est ça vraiment les vrais héros.
Vous leur avez rendu hommage au Cap Horn en leur dédiant finalement ce cap mythique, en expliquant que finalement le Cap Horn, c'est eux qui le passent chaque jour.
Ouais, exactement. Il faut comprendre que sur le Vendée Globe, le Cap Horn, c'est le dernier cap, c'est la sortie des mers du Sud. On sort
Des semaines dans le Pacifique, où il fait froid, c'est dur.
Ben en gros, on passe un mois dans les mers du Sud, donc l'océan Indien et le Pacifique. On est très vulnérable dans ces endroits du monde parce qu'il n'y a pas d'abri. Les conditions météo sont vraiment extrêmes. Quand on passe le Cap Horn, c'est un peu la fin de tout ça. C'est la première terre qu'on voit depuis plusieurs semaines. Et on va vers des conditions un peu plus faciles. On rentre à la maison, entre guillemets. Donc quand on passe le Cap Horn, voilà, c'est un monument dans notre course. Et j'avais à cœur de le dédier à Lazare parce que ça représente beaucoup.
Et pourtant, une fois qu'on a passé le Cap Horn, on n'a pas fini le Vendée Globe. Il reste quelques
semaines.
Ouais,
on n'est pas à la maison et puis on est encore dans les mers du Sud, mine de rien, parce qu'on est encore par. Le Cap Horn, il est par 60 Sud, jusqu'à 40 degrés, voire 30 degrés Sud. Les conditions sont extrêmes. Donc il reste quelques jours avant de retrouver des conditions un peu plus douces.
Racontez-nous un peu cette aventure. Qu'est-ce que vous avez découvert du monde, peut-être déjà sur ce Vendée Globe? On ne voit pas la Terre et en même temps, on sent qu'on passe d'une région à l'autre. On le voit. Voyez avec vos vidéos, les ambiances sont différentes d'une mer à l'autre.
Ouais, c'est vrai. Il y a la dimension géographique de ce voyage, elle est incroyable. Je m'y suis aperçu quand même dans l'hémisphère sud, en tout cas au sud des trois caps. L'être humain n'était pas le bienvenu. Et d'ailleurs, il y a très peu d'êtres humains. Il y a beaucoup d'albatros, il y a beaucoup de baleines, de dauphins. Mais
vous en avez vu beaucoup, ça ?
Ouais, un albatros, il y a toujours un albatros qui danse derrière le bateau dans les mers du Sud, en permanence. J'ai pas eu une minute sans albatros, donc ça, c'est assez fantastique. Mais on se sent vraiment vulnérable. Il n'y a pas d'êtres humains, il n'y a pas de secours, il n'y a pas de ville. On sent qu'on est tout juste toléré dans ces endroits-là. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et puis après, c'est un voyage fantastique. Il faut comprendre que quand on fait le tour du monde, on change d'heure un peu tous les deux jours parce qu'on fait route vers l'est. Donc on rattrape le soleil quelque part. Et donc on se cale sur les fuseaux horaires des pays qu'on croise, mais qui sont souvent beaucoup plus nord. Donc on a un petit peu l'impression de voyager. Quand à un moment donné, j'avais l'horaire de l'Inde, puis du Canada, puis ainsi de suite. Et ouais, c'est assez sympa.
Alors certains concurrents, certains skippers ont montré des images quand même des îles par lesquelles ils sont passés. Vous avez pu voir des choses quand même ?
J'ai vu une seule île, c'est Fernando de Noronha au large du Brésil. Et c'est vrai que quand on revoit une île, ça fait quelque chose, on retrouve la civilisation. Mais la première chose qui m'a marqué quand j'ai passé le Cap Horn et que j'ai remonté l'Atlantique Sud, c'était les traces d'avions dans le ciel. J'en avais pas vu pendant plusieurs semaines. Et en fait, quand on remonte, qu'on se rapproche de la civilisation, on s'aperçoit que voilà, il se passe des choses.
Seul sur un Emoca, c'est un bateau de 18 mètres à travers les mers du monde. Par quel sentiment on est habité ? Est-ce que cette course extrême fait naître en vous des sentiments extrêmes ? On vous a vu pleurer, rire parfois aux éclats aussi. Quels ont été vos sentiments ?
Il y a quelque chose qui domine quand même, c'est la peur. Je m'en cache pas. J'ai eu des grosses avaries sur mon Vendée Globe et en fait. Moi, c'était un Vendée Globe, je voulais absolument pas abandonner parce que c'était mon premier, parce que je le faisais pour l'hasard. Donc, il était hors de question que l'histoire se termine mal et il fallait absolument terminer. Et c'est vrai que c'est un sport mécanique et on ne maîtrise pas tout parce que le bateau est énorme, il est très puissant. Les conditions météo qu'on rencontre sont extrêmement musclées et il y a des avaries. On a peur que tout s'arrête. On vit vraiment avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en permanence. Donc, le sentiment qui prédomine, c'est la peur. Après, c'est un petit peu les montagnes russes en solitaire sur un bateau avec la fatigue, tout est exaspéré. On a peur, mais on peut dans la même minute être euphorique et très joyeux. J'ai pleuré dans la même journée de peur et de joie, ça m'arrivait très régulièrement.
J'ai en mémoire ce passage au large du Brésil où finalement votre bateau se brise un petit peu et vous êtes comme désespéré de devoir réparer, peut-être vous tentez une ultime chance de réparation et ça fonctionne. Il y a comme ça en quelques vidéos que vous partagez des émotions incroyables.
Ouais, c'est exactement ça. Alors c'était effectivement au large du Brésil. J'avais déjà cassé mon bateau une première fois au sud de l'Australie et il recasse au même endroit dans la remontée. Et c'est un moment où...
C'est à l'avant, c'est ça ?
À l'avant, ouais. La structure du bateau. La structure, ce qui fait en sorte que le bateau reste raide et qu'il ne casse pas en deux dans les vagues. Donc ça, ça a cassé, donc il faut réparer très vite. C'est des grosses réparations qui demandent beaucoup d'énergie. Et c'est un moment où j'étais très fatigué parce que j'étais à la bataille avec Benjamin Ferré. On était vraiment au coude à coude et j'y croyais. Et quand je casse mon bateau, et je suis obligé un petit peu de renoncer à la bagarre contre Benjamin. Et surtout, je sais qu'il va falloir que je me retrousse les manches pour réparer le bateau. Et c'est un moment où j'avais peu dormi, j'étais très fatigué, donc ouais, je craque un petit peu, je pleure et je me filme parce que le Vendée Globe, il existe que parce qu'on raconte des histoires. Et c'est important aussi de raconter ces histoires quand ça va pas, il faut pas montrer que le positif parce que c'est pas la réalité.
Mais ça nous permettait d'être avec vous finalement dans ce Vendée Globe. Le Vendée Globe pour vous c'était un peu MacGyver quand même. Hein. Il faut être capable de faire des réparations dans des conditions complètement dantesques, parfois en haut du mât, parfois dans la coque avec des matériaux auxquels vous avez été formé. Vous êtes parti avec une caisse à outils incroyable.
Ouais, alors on a la chance de pas être seul. Moi j'ai une grosse équipe autour de moi qui a préparé le bateau pendant 3 ans, qui a préparé tout ce matériel qu'on a à bord et qui nous aide à réparer. C'est sans assistance le Vendée Globe, mais par contre on peut bien le préparer en équipe et avoir tout le matos qu'il faut, et mon équipe avait fait un super job de ce point de vue là ensuite moi je suis arrivé au bateau par la technique. Je suis pas ingénieur, j'ai pas fait d'école de commerce, je suis pas arrivé par une autre porte que la technique. En fait, j'ai commencé, j'étais mécanicien, et donc la technique sur un bateau, c'est mon point fort. Et j'ai eu des grosses galères parce que petit budget, parce que vieux bateau. Mais au final, j'ai réussi à tout gérer parce que c'est ce que j'aime faire sur un bateau avant même naviguer.
Comment ça fonctionne pour, malgré tout, trouver un peu d'aide dans ces moments critiques ? Est-ce que vous étiez en lien avec votre équipe à terre ? Est-ce que vous pouvez vous aider aussi entre skippers ? Vous étiez à proximité de Benjamin Ferré quasiment en permanence. Oui. Est-ce que ça vous a aidé ? Est-ce que vous avez demandé conseil ? Même s'il n'y a pas d'assistance, vous pouvez quand même vous faire aider ?
Oui, on peut se faire aider. On a le droit de se faire aider par notre équipe pour des sujets techniques si ça atteint la sécurité. On ne peut pas se faire aider pour des sujets de performance. Imaginons que j'ai un problème qui impacte ma performance. Là, mon équipe ne peut pas m'aider. Il faut vraiment que ça soit en lien avec ma sécurité. Mon équipe m'a aidé à certains moments, notamment quand j'ai cassé la structure de mon bateau parce que je pouvais casser mon bateau et couler. Donc là, ils m'ont aidé. Mais c'est vrai que j'aimais bien pouvoir me débrouiller tout seul aussi. Avant de les appeler, j'essayais de réfléchir de moi-même.
Et pour la météo, c'est pareil. Vous êtes seul à mettre à bord, vous avez fait vos choix.
Seul. Ah alors là, pour le coup, c'est très strict, on est complètement seul et on doit faire nos choix seul, et c'est ce qui fait un petit peu la beauté de cette course.
Notre invité ce matin sur RCF et Radio Notre-Dame, c'est Tanguy Le Turquet qui revient du Tour du Monde. Il vient d'achever le Vendée Globe aux couleurs de Lazare, cette association de colloques de personnes de la rue qui vivent avec de jeunes professionnels. Merci d'être avec nous. Vous avez fait ce Vendée Globe en même temps que Clarisse Kremer, c'est votre épouse. C'est une aventure familiale ?
Malgré nous, oui. À la base, c'est la volonté de, de, de deux personnes. Enfin, j'ai pas eu envie de faire le Vendée Globe parce que Clarisse le faisait. C'était un rêve que j'avais au fond de moi depuis longtemps. Et pareil pour Clarisse. Clarisse l'a fait en 2020. Moi, je l'ai vécu depuis mon canapé. Ça a été insupportable.
Insupportable
parce que c'est très stressant. J'étais très inquiet pour elle et je pouvais rien faire parce qu'elle était à l'autre bout du monde et que je pouvais pas l'aider. Donc, ça a été dur à vivre et je peux le témoigner. J'ai vécu un Vendée Globe dans un canapé et sur un bateau. Bah, c'est bien plus facile sur un bateau.
Mais sauf que là, cette fois, il y avait à la fois les deux parents sur la mer, mais aussi une petite fille restée à terre.
Ouais, exactement. Mathilda, 2 ans, qu'on a laissée avec sa tante, avec sa tatina, comme elle l'appelle, pendant 3 mois. C'était un... En fait, quand moi, je me suis lancé dans le Vendée Globe, Clarisse n'était pas encore enceinte et elle est tombée enceinte pendant mon projet. Donc voilà, on n'a pas super bien géré le timing, mais c'est comme ça, la vie en a décidé ainsi et on est partis tous les deux sur le Vendée Globe et on a laissé Mathilda à sa tante et ça s'est très bien passé, heureusement.
Est-ce que vous avez pu communiquer avec Clarisse Kremer justement pendant ce Vendée Globe?
Alors j'ai un petit peu communiqué avec Clarisse, mais voilà, un petit message par jour pour savoir si tout allait bien, sans plus. Moi j'étais vraiment dans ma bulle et elle aussi, donc on est très concentrés sur nos courses et on avait des petites nouvelles régulières de Mathilda, mais on n'est pas rentrés nous en contact avec Mathilda, on voulait pas la perturber, on voulait pas qu'elle comprenne que ses parents étaient pas là en fait, parce qu'à cet âge-là on nous a expliqué qu'ils avaient pas de notion du temps. Donc on a fait notre course, on avait une petite photo de temps en temps, on était très heureux, on avait extrêmement hâte de la retrouver, mais j'ai l'impression... En tout cas, ça fait maintenant 3 semaines qu'on l'a retrouvée. Elle est très heureuse et j'ai pas l'impression qu'elle en ait souffert, mais on verra dans les années à venir.
Est-ce que vous l'avez fait entrer dans votre cockpit? Dans le cockpit de vos bateaux?
Ah, bien sûr, Mathilda. Ouais. Ah oui, ouais. Bien sûr. Elle est venue, elle adore tourner les manivelles, même si la manivelle la dépasse de 40 cm. Ouais, ouais. Elle adore les bateaux. Elle sait lequel est le bateau de papa, lequel est le bateau de maman. Et elle a des petites maquettes qui font 1 mètre de haut du bateau de papa et de maman. Donc, ouais, elle est bien connectée à tout ça.
Elle a bien conscience de la vie que ses parents ont menée pendant plusieurs mois sur les mers. Comment ça s'est passé pour le sommeil? Parfois, on vous voit crever complètement, ouais, pendant le Vendée Globe dans les vidéos que vous avez envoyées.
En fait, oui, je suis arrivé avec les yeux très très rouges et vraiment à bout de force parce que les trois dernières journées étaient très très tendues avec Benjamin et j'ai peu dormi. En fait, sur 3 mois, on est obligé de dormir un petit peu pour garder la lucidité. Moi, j'ai dormi environ 3 heures par jour, fractionné en 30 minutes et ça tient. On est un peu tout le temps épuisé, il y a tout le temps ce sentiment de fatigue et il y a des moments où il faudrait aller dormir parce que là c'est le moment et on peut pas à cause de la météo, à cause des avaries. Donc il y a des moments où on est particulièrement fatigué parce qu'on a accumulé de la fatigue et voilà, et on essaie de la rattraper plus tard quand les conditions sont plus calmes. Mais l'idée quand même de ce Vendée Globe, c'est d'arriver sur les rotules, d'avoir tout
donné. On le sait, on part, voilà. On sait qu'on va revenir complètement à ça.
Ah, il faut, bah, c'est l'objectif, sinon c'est qu'on s'est loupé. Si on arrive enfin moi c'était mon point de vue, si j'arrive au Sable d'Olonne en ayant encore sous le pied, c'est pas bon.
Comment vous avez gardé de la lucidité sur ce qui se passait, parce que vous êtes dans un univers complètement hostile, la mer c'est absolument dangereux quoi, finalement seul sur un bateau comme ça dans les tempêtes, comment on garde la lucidité pour être prudent?
Alors c'est beaucoup de réflexes finalement, on a des petites consignes qu'on se fait chacun à bord, pas de manœuvre risquée, on a toujours une marge de sécurité sur tout ce qu'on met comme voile, ce genre de choses, et puis dormir c'est le plus, dormir et manger c'est le plus important, c'est ce qui permet de rester en forme. On mange plus que ce qu'on dépense. En cas de problème, il faut avoir l'énergie. Comme on dort peu, il faut compenser avec la nourriture. Moi, j'ai pris pas mal de poids pendant ce Vendée Globe,
ah ouais,
par exemple.
Ouais, ouais, c'est pourtant, c'est un effort physique.
Ouais, c'est un effort physique, mais on marche pas. Donc, on compensera jamais le fait de pas marcher. Et puis on mange beaucoup plus qu'à terre parce qu'on dort que 3 heures, donc il faut tenir. Et donc, on mange la nuit. Moi, je faisais 4 plats chauds par jour, par exemple. Donc, voilà, c'est tout ça qui nous aide à rester lucide.
Tenir, est-ce qu'il y a d'autres forces qui viennent vous aider dans ce Vendée Globe? Alors, on vous voit au moment du passage de l'équateur, à l'aller et au retour. Voilà, ouais. Remercier Neptune de vous avoir laissé passer. Est-ce que vous avez puisé dans d'autres convictions?
Ben, y a forcément un petit côté spirituel. Rituel permanent. C'est vrai que on demande beaucoup. On demande beaucoup d'aide à je ne sais qui, mais on demande beaucoup. Il y a la dimension spirituelle. Je l'avais pas imaginé que ça serait comme ça, mais elle est bien là. Et on se retrouve à parler à voix haute, hein, à voix haute, à demander, à questionner, à prier beaucoup.
Et, à prier.
Ouais, à prier beaucoup. Et pourtant, je suis pas particulièrement catholique, mais oui, quand on se retrouve face à soi-même et face aux éléments, et ben des fois, on a besoin de demander de l'aide. Et je sais que les collègues Lazare ont beaucoup prié pour moi, et je crois que c'est aussi pour ça que mon Vendée Globe s'est si bien passé.
Vous pensez vraiment
Ouais, je le pense vraiment. Ouais, je le pense vraiment.
Quand vous êtes arrivé au ponton au Sable d'Olonne il y a quelques semaines maintenant, vous avez eu cette réflexion que vous venez d'avoir là. Je sais pas qui m'a aidé, mais j'ai été aidé.
Exactement. Ouais, vraiment, j'ai eu ce sentiment. Il y a eu beaucoup de moments où j'ai cru que tout allait s'arrêter et je suis quelqu'un de très pragmatique pardon et j'adore voilà la technique et pour moi quand c'est pas réparable c'est pas réparable. J'ai toujours réussi à réparer et des fois je sais pas comment. Donc ouais il y a quelqu'un qui m'a aidé c'est sûr.
Comment est-ce qu'on fête Noël en mer?
On fête pas, on oublie. On oublie le jour où c'est ma chargée de com, mon équipe de com qui m'a rappelé que c'était Noël et qu'il fallait envoyer une vidéo, mais j'avais complètement oublié que c'était Noël. En fait, on quitte le temps, si vous voulez, on quitte les repères de la société. Et le jour de Noël, le jour de l'an, j'avais pas capté que c'était le jour de Noël et le jour de l'an. Et donc, comme on doit envoyer des petites vidéos à l'organisation, on nous le rappelle, au fait, aujourd'hui c'est Noël, t'oublieras pas de faire une petite vidéo. Ah oui, c'est Noël. Donc on va piocher dans le sac de nourriture où il y a les cadeaux, et puis on fait une petite vidéo, et voilà. Et j'ai quelqu'un de mon équipe qui vient du Sud-Ouest qui m'avait mis une petite terrine de foie gras, et voilà.
C'est sympa, ça.
Ça m'a permis de célébrer quand même.
Ça permet de se reposer, justement.
Bah ouais, c'était vraiment un petit réconfort.
Parlez-nous de l'arrivée de votre bateau Lazare au Sable d'Olonne. Il y avait littéralement le feu sur le ponton pour vous accueillir. J'ai vécu ça en direct ici à la rédaction. On était complètement euphorique avec vous.
C'était la folie. C'était complètement de la folie. Les colocs Lazare, je crois que je l'ai dit au départ, c'est des gens qui ont vécu dans la rue pour la plupart. Et en fait, au départ, à l'arrivée, ils ont eu à cœur de récupérer la rue. Et ils ont mis un bordel dans les Sables d'Olonne. C'était pas croyable. Et quelle émotion. Franchement, c'est des moments uniques. C'est particulier parce que quand on arrive de 3 mois en solitaire et qu'on croise le premier Zodiac qui vient nous accueillir pour franchir la ligne d'arrivée, ça vient casser quelque chose. Il y a un équilibre qui se casse. Donc au début, on est un petit peu perturbé. Moi, je sais que j'étais un peu mal à l'aise et un peu timide de tout ça. Et finalement, très vite, on est très heureux de retrouver tout le monde et on a vraiment ce besoin de prendre les gens dans les bras. Moi, c'était ça. J'avais besoin de prendre les gens dans mes bras.
Comment vous vous sentez là aujourd'hui, 3 semaines après votre arrivée? Est-ce que ça y est, vous avez remis un peu les pieds à terre?
Non, pas du tout, je suis très fatigué. D'ailleurs, je suis étonné que ça... Là, on rentre de 10 jours de vacances avec Clarisse et Mathilda. Et je suis encore très fatigué. Je pour rien, j'arrive à rien. J'arrive même pas à réfléchir. Je pense que ça va prendre du temps. J'ai ce petit défaut de vouloir aller trop vite et de me dire, bon allez, c'est quoi le prochain objectif? Mais là, il faut se poser, ouais. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas seulement 3 mois, c'est 4 ans de projet qui nous ont épuisés.
Merci de nous les avoir racontés sur RCF et Radio Notre-Dame ce matin, Tanguy Le Turquet. On a été très heureux de vous suivre et très heureux de vous recevoir ce matin, Tanguy Le Turquet, skipper du bateau Lazare, du nom de cette association qui accueille des colocs à la fois issus de la rue et des jeunes pros qui vivent ensemble. C'est un beau projet. Là aussi, un autre Everest, un Everest social. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Tanguy Le Turquet, sur RCF et Radio Notre-Dame. La matinale continue.